Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle séquence des petites et grandes histoires de la basse marche. Nous allons consacrer la chronique d'aujourd'hui à Noël, hier, en basse marche. Nous le ferons grâce à des textes de Jean Blanza, tirés du roman La Gartempe, Michel Dominique, de Coutume et Croyance à Blon, Charles Sylvestre, de Prodige du cœur et de Au soleil des saisons, de Paul Lavergne, tiré des Récits de l'Ancien Temps, de Germaine Mariteau, tiré de Le Temps à Saint-Pardoux, de Monsieur et Madame Jetier, de Coutume et Croyance à Saint-Sornin-la-Marche, et d'Albert Gourceau, en La Société Rurale, en Limousin.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
Au début du IVe siècle, on fêtait Noël ou bien le 25 décembre ou bien le 6 janvier. Puis, les festivités s'étalèrent entre ces deux dates. C'est ce qu'on appelait le cycle des 12 jours. C'est vers les années 330 que les églises latines décidèrent d'instituer une fête particulière pour célébrer la naissance de Jésus. Après maintes hésitations, ils la fixèrent le 25 décembre, faisant une distinction entre la naissance dans la chair, le 25 décembre, et une naissance divine, le 6 janvier, qui fut consacrée à l'adoration des mages. En fait, le 25 décembre correspondait à des fêtes déjà existantes que les églises décidèrent de christianiser, et en particulier la fête du soleil triomphant, qui avait lieu au solstice d'hiver, et la fête de Mithra, une divinité solaire d'origine perse, dont l'empereur romain était l'incarnation.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Pas de vrai Noël sans neige, n'est-ce pas ? Écoutons ce que nous dit Jean Blanza dans La Gartempe de l'arrivée des premières neiges. Une nouvelle phase de sa vie commençait avec les premières neiges. La rue était blanche jusqu'au ras des seuils. Par-dessus les toits épais de Watt, les arbres des jardins retenaient dans leur treillage comme un secret surpris et gardé, un morceau de temps que la neige avait tissé dans l'épaisseur de la nuit. Les champs et les bois étaient plus proches. Le tracé des chemins, les fossés, les mouvements du sol se perdaient dans les ondulations qui absorbaient les détails. Monde bouffon et vide, silencieusement habité de lumière rousse sous le ciel pesant. Au bord des fossés disparus, les peupliers d'Italie se dressaient intacts. Les corbeaux y étaient répartis comme de funestes fruits noirs pour s'envoler tout à coup à un signal invisible. Dans l'enclos du cimetière, les croix en fer forgé se détachaient plus nettes et le silence au-dessus semblait plus dense. Les morts étaient plus morts, plus absents, plus terrés dans le néant. Tout le jour, le village vivait une vie mesquine, prisonnier d'une farce. Seuls les chiens de berger s'en évadaient et battaient la campagne, marquant les talus à la lisière des bois des griffes de leur chasse. Les vaches restaient à l'étable, d'où filtraient, à travers la litière, de lents ruisseaux d'urine dont la rousseur acide rongeait au bas des murailles la neige pure. Les moutons croupissaient dans les bergeries tièdes et leur puanteur réchauffait l'air au coin des maisons. Du logis à la fontaine, de la cave au cellier, les hommes avaient des gestes courts, peureux et furtifs comme des merles dans les haies. Ils verraient, avec soulagement, descendre après le court après-midi la brume bleue du soir dont le froid recrudescend. Rien d'autre à faire de ces jours inutiles que de les traverser comme l'époque entière, à moindre vie, dans un repliement économe et craintif.
Natale, 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 Nat
Écoutons maintenant Michel Dominique qui, dans un article consacré aux coutumes et croyances à Blond, nous parle ainsi de Noël. La veille de Noël était particulièrement propice aux traditions et aux croyances populaires. La principale était, au début du siècle dernier, de trouver la bûche. Le chef de famille la choisissait en cerisier, en pommier ou en prunier, rarement en châtaignier. Il fallait qu'elle ait au moins un trou, car ce dernier avait le pouvoir de faire pondre les poules. Le plus souvent, la bûcheau de Nado, on disait aussi la bûcheau à Nado, parfois aussi appelée mais plus rarement le cosson de Nado, devait mesurer au moins 1,20 m pour tenir toute la cheminée. La journée n'était marquée par aucun événement particulier. À 6 heures, la famille prenait un repas assez léger composé de soupe, de pain et de fromage. Aux environs de minuit, parfois plus tôt si le village était loin du bourg, avant de partir pour la messe de minuit, le père ou l'aïeul mettait la bûche sur le foyer pour que le Jésus puisse voir clair pour arriver. Cependant, il fallait prendre garde à ce que le tison à Nado ne se consume pas trop vite, car il devait durer jusqu'au 6 janvier, jour des rois. On plaçait près du foyer une rave qu'on fendait et dans laquelle étaient placés des épis de blé. Le lendemain, on la partageait entre toutes les bêtes de l'étable pour apporter abondance et fécondité. Les tisons de la bûche n'étaient pas négligés, car les habitants de la commune les recueillaient et les arrosaient d'eau bénite afin de protéger de l'orage les maisons et les étables. Les jeunes gens ne restaient pas à la maison la veille de Noël. En bande, chantant des airs anciens ou modernes, ils se rendaient au bal où ils dansaient jusqu'à ce que sonne la messe de minuit. Celle-ci terminée, on se rendait à l'auberge pour manger des boudins. Le réveillon à la maison était fort modeste. On se contentait d'un peu de jambon, d'un gâteau, d'une bouteille de vin vieux et de café arrosé d'une bonne goutte. À leur réveil, les enfants pouvaient découvrir ce que Jésus leur avait apporté. Rares étaient les familles où l'on parlait du Père Noël. Les enfants n'avaient que bien peu de gâteries, une pomme d'orange, quelques pommes, une boîte à un sou fort simple ou à deux sous, ornée de fleurs contenant des dragées, quelques pralines et des bonbons. Si la famille était aisée, l'enfant pouvait trouver, en plus, un sabot en chocolat contenant un petit Jésus en sucre. Nous pouvons noter à cette occasion que nos campagnes ne connaissaient absolument pas la coutume du sapin de Noël, qui est relativement récente. De nos jours, et le texte date de 1963, donc de nos jours, cet usage est plus particulièrement pratiqué dans nos bourgs que dans nos hameaux. Une légende fort tenace qui existe encore aujourd'hui empêche les paysans d'entrer dans l'étable la nuit de la nativité, car les animaux ont, à minuit, la faculté de parler et de prédire le destin de leur maître. De cette légende, je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine en vous racontant l'histoire de Jean Patureau de Clerbise, un hameau de la commune de Vareil dans l'ouest de la Creuse. Le lendemain de Noël, on se rendait à une procession en faveur des bestiaux, et particulièrement des ovins, à la chapelle du Bois du Rat, dans la commune de Sieux. À partir de ce texte traitant de Noël dans les monts de Blond, on voit quelles sont les grandes caractéristiques de la Noël en basse marche. La bûche et les tisons de Noël, la messe de minuit, le réveillon, les cadeaux de Noël et nous ajouterons le pain de Noël. La bûche de Noël d'abord. De la bûche de Noël, Charles Sylvestre, dans Prodige du cœur, nous en fait ce récit. Après le repas du soir, Claire, Jeannette et Simon prirent place devant la cheminée. Jacquier, qui était sorti, revint bientôt en portant avec précaution, comme une chose fragile, une souche de pommier qui était devenue bien sèche près de la chaudière où l'on faisait cuire le manger des porcs. Il la plaça sur le monceau des braises et il s'assit sur le coffre à sel. La flamme tournait autour de la bûche. Il la regardait avec une sorte de joie, de ses yeux ronds, aux paupières rougies et bridées. « Je me souviens d'une qui était d'amandier, » gronda-t-il, « et que mon père avait gardé deux couples d'années près du four. Demoiselle, il n'y a point de ces arbres par là. Elle faisait un feu tout blanc, piqueté de bleu. Il m'était venu des clous au cou sur les bras. Ma mère passa les charbons 9 fois sous une tige de ronce. Je fus vite guéri. Ma peau devint lisse comme la peau d'une pomme.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans Récits de l'ancien temps, Paul Lavergne, interrogeant Madame Chevalier, confirme ce que nous venons de dire à propos de la bûche de Noël. La veille de Noël, nous dit-elle, on mettait sur le foyer la plus grosse bûche que l'on pouvait trouver dans le bûcher. S'il n'y en avait pas d'assez grosse, les hommes allaient en couper une sur le domaine. La coutume voulait qu'elle soit d'arbres fruitiers, de pommiers, de pruniers, de cerisiers ou même de noisetiers. Au fond des jardins des métairies, il y avait d'énormes noisetières qui produisaient des noisettes comme on n'en voit plus. Dans certaines communes, on réserve l'arbre où l'on va prélever la bûche de Noël de l'année précédente. Aux essences déjà citées, on ajoute l'aubépine noire, l'orme et le chêne. Parfois, on ramasse soigneusement les copeaux dans un panier et on les disperse dans le poulailler pour que les poules soient bonnes pondeuses, bonnes couveuses. Sur le tas de fumier, pour obtenir une abondante récolte, on les conserve aussi pour les jeter dans le feu en cas d'orage. Parfois, on bourre la bûche d'eau bénite, de sel et de coquilles de noix. Lorsque la bûche est à terre, il ne faut surtout pas l'enjamber ni l'utiliser comme siège, sinon on risque d'avoir des furoncles pendant 40 jours. Quant aux cendres que l'on va récupérer après les rois, elles ont des propriétés magiques. On les recueille et on les place sous le lit ou sur l'armoire pour préserver la maison des orages. On les conserve précieusement dans un pot ou dans un sac. Il suffira d'en jeter une poignée dans l'âtre quand l'orage deviendra trop violent. On en jette dans le puits. L'eau sera de bonne qualité et les serpents n'iront pas boire. Et chez nos voisins poitevins, des cendres préservent de la toux et des rhumatismes. La messe de minuit, maintenant. Germaine Barito, dans un article sur le temps à Saint-Pardoux, nous donne ce petit dicton du voyage vers l'église pour la messe de minuit. La nuit de Noël, si les sabots résonnent sur le sol gelé, il y aura du blé. Soyez gais. S'il pleut, la récolte sera mauvaise. Allez vous coucher. Après la veillée, avant minuit, il était temps de partir vers l'église du village. Les femmes revêtaient de larges mantes, emplissant leurs poches de quelques œufs, de noix, de pommes pour les offrandes à déposer auprès de la crèche. Les paysans s'en allaient donc par petits groupes dans les chemins de traverse. Une simple lanterne suffisait à apprivoiser les ténèbres. À noter que, dans bien des cas, avant de partir vers la messe de minuit, l'aïeul aspergeait le feu et la bûche d'eau bénite. Mais Paul Lavergne, faisant parler Madame Chevalier de Saint-Bonnet de Bellac, nous précise « Notre ferme isolée se trouvait loin du bourg, sans route pour y conduire. » Et certaines années, le temps était si mauvais, à cause de la pluie ou de la neige, que les chemins devenaient impraticables, même à pied. Avec des sabots, nous ne pouvions nous rendre à la messe de minuit. Alors, lorsque la bûche était bien enflammée, à l'heure où la messe sonnait au bourg, toute la famille, vieux et jeunes, s'agenouillait autour du foyer. La grand-mère aspergeait la bûche de quelques gouttes d'eau bénite et nous récitions nos prières à haute voix, tous ensemble, les yeux fixés sur le feu. Voici les paroles d'une chanson qui était chantée en Limousin à la messe de minuit ou à la maison. C'est un dialogue entre l'ange qui parle en français et le berger qui lui répond en patois. C'est un chant qui date du XVIIe siècle. L'ange, à vous, troupe fidèle, à vous, pauvre berger, une grande nouvelle, je viens vous annoncer, le fils du Tout-Puissant est né dans une étable. Le berger, où voulez-vous que j'aille? On se croirait dans un four, la nuit n'est pas brave, laissez venir le jour. C'est encore la nuit sombre, les coqs n'ont pas chanté, la lune est couchée, je ne verrai pas à m'habiller. L'ange, je vous le dis encore, ô berger, levez-vous, N'attendez pas l'aurore et vite, habillez-vous. Ben, mon Dieu, si j'étais riche et si j'avais de l'argent, je ne serais pas avare pour lui faire un cadeau. Nous n'avons cette année que la laine de quelques moutons, mais je lui porterai ce qu'il faut pour faire ses langes. L'ange. Berger, Dieu ne demande de vous que votre cœur. Il est la seule offrande qui peut plaire au Seigneur. Je lui porterai encore un si joli petit levreau que je pris naguère dans un herbage. Je sais où gîte une bécasse. Je ferai ce que je pourrai. Je tendrai une nasse. Peut-être je la capturerai.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Quant au réveillon, dans les familles riches, ce qui est une rareté en basse marche, on savoure du boudin, des grillades, des pâtés, des rôtis. Mais nous l'avons vu dans le récit du Noël à Blon, le réveillon familial est fort modeste. Il en va de même à Saint-Bonnet-de-Bellac, c'est toujours Paul Lavergne qui nous en fait récit. Ce n'est qu'ensuite que nous faisions sauter les crêpes ou griller les châtaignes pour notre réveillon, car il n'était pas comme aujourd'hui question de dinde. On s'amusait bien tout de même. Après le réveillon, on dansait au tralala parce que, bien sûr, nous n'avions pas de musique. C'était la bourrée, c'était la polka piquée. Ni l'air, ni les paroles n'étaient compliquées. C'était bien entraînant quand même et pas besoin de parquet ciré. La terre battue de la salle nous suffisait. Le pain de Noël. C'était un pain qu'il était usage de cuire la veille de Noël. Il possédait certaines propriétés magiques et se conservait d'une année sur l'autre et même parfois bien davantage. Pour le reconnaître, on imprimait sur la pâte le dessin d'un petit sabot. À Saint-Sornin-la-Marche, on utilisait un cataplasme de ce pain de Noël pour soigner les malades. À Nantia, où il est interdit de le jeter au feu, on en donnait aux bêtes pour prévenir les maladies. Dans bien des communes, il avait pour mission de hâter, de faciliter la délivrance des femmes en couche, et pour le consommer, on le trempait alors dans un peu d'eau salée. Ajoutons encore qu'en donner un morceau aux pauvres permettait de guérir les enfants de la famille en retard pour parler ou marcher.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Alors quant au cadeau de Noël, monsieur et madame Jetier, dans un article Coutume et croyances à Saint-Sornin-la-Marche, nous indique, on ne parlait pas du Père Noël, mais d'un vieux avec son bissac. Et le sapin de Noël n'est connu que depuis la dernière guerre. Les enfants devaient mettre leurs sabots devant la cheminée et le matin, à leur réveil, ils découvraient ce que le vieux leur avait apporté. Dans « Au soleil des saisons », Charles Sylvestre nous parle précisément des cadeaux que les enfants recevaient en basse marche dans les années 1930. Au village, les enfants paysans ont reçu les jouets de Noël et de l'an neuf. Les plus pauvres ont les plus beaux, les plus magiques. Des osselets colorés en rouge que l'on cache dans la paume de la main et qui sautent avec un bruit sec. Un toton divinateur taillé dans un petit morceau de buis, marqué au couteau, et que le pouce et l'index en ressort font tourner sur son pivot. Une menue cruche de terre cuite. Un oiseau creux, en argile vernissée, où l'on met de l'eau qui se mêle au souffle de la bouche et rappelle les clairs sanglots du rossignol. Une grosse noix, qui peut contenir une minuscule poupée de porcelaine dans une chemise en papier cigarette. Et sous notre ciel si brumeux pendant l'hiver, une orange, achetée 12 sous chez l'épicier, est un présent miraculeux. On la pose sur la table en bois de cerisier reluisant, et toute seule, elle resplendit comme l'étoile d'un verger de paradis dont l'ombre morne du soir. Un Espagnol n'en connaîtra jamais comme nous la splendeur unique. Il peut en voir des chargements brûlés de gloire au soleil. Les petits n'osent pas la manger tout de suite. Prendre ses tranches en quartier de lune et d'abord, il la dévore des yeux. Les légendes de Noël. Parmi les légendes de Noël, nous avons déjà évoqué celle des vaches qui parlent la nuit de Noël. Il est une autre légende très répandue dans notre région, celle des pierres, des rochers qui s'ouvrent la nuit de Noël, parfois pour aller boire à la rivière, et qui souvent découvrent un trésor visible seulement pendant les 12 coups de minuit. C'est le cas de la pierre vironnaire ou de la pierre virdouère, la pierre qui vire, de l'Héritière dans la commune d'Arnac-la-Poste, celle du Dolmen des Bras dans la commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles, celle de Pierrefitte dans la commune de Jouac, de la pierre Servière dans la commune de Montrol-Sénard, des rochers de Puychaud dans la commune de Blon, ou des pierres d'or entre Villechenoux et Puy-Pichet dans la commune de Nantia. De ces légendes de Noël, nous en traiterons le week-end prochain. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle séquence des petites et grandes histoires de la Basse Marche que nous avons consacrée à Noël, hier, en Basse Marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Jean Blanza, de Michel Dominique, de Charles Sylvestre, de Paul Lavergne, de Germaine Bariteau, d'Albert Gourceau et de Monsieur et Madame Jetier. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au Quatuor de Saint-Jean, au groupe Martina et Rosina Perra, Maluzerne et Grand Rouge, à la chorale Mathieu Allais et au chœur de Saint-Michel que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À bientôt donc. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et une très bonne semaine.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.